Comme il a été dit ce matin, Jésus est ressuscité.
Il est réellement ressuscité.
C'est la salutation des chrétiens orthodoxes lorsqu'ils célèbrent le jour de la Pâque. Donc les gens se croisent les uns les autres, l'un dit à l'autre, Jésus est ressuscité, et l'autre répond, il est vraiment ressuscité. Donc, vendredi, nous avions regardé un aspect de l'œuvre de la croix, et j'avais accentué l'humanité de Jésus dans cette œuvre de la croix, en particulier ce qui manifestait son humanité, qui était son âme, qui a d'abord été troublée, Jean 12, et ensuite qui est passée par l'angoisse dans le jardin de Gethsémané. Et hier, on a plus insisté sur les proclamations de Jésus dans ce temps entre la mort et la résurrection, avec une double proclamation à l'égard des élus qui l'attendaient dans le sein d'Abraham, dans le Sheol, le séjour des morts, et de l'autre côté à l'adresse d'une catégorie particulière d'anges qui avaient provoqué en fait par leur péché le déluge. Donc, je ne vais pas répéter évidemment tout ça ce matin. Aujourd'hui donc nous allons parler de la résurrection. Mais il y a plusieurs manières de parler de la résurrection. Quand on pense au thème de la résurrection, et ça a bien été dit ce matin dans les partages, on pense à la puissance de l'Esprit de Dieu. Et donc on ne peut pas dissocier quelque part la résurrection de la Pentecôte, qui est la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu, puisque c'est par l'Esprit de Pentecôte que nous participons à la résurrection de Jésus. Et donc, je vais prendre un angle particulier ce matin pour parler de la résurrection. Comment être rendu participant de la vie de résurrection? Alors, je ne vais pas faire de la théologie avec premièrement, deuxièmement, troisièmement. On va revenir à quelque chose, comme toujours, qui est très très simple. Avant cela, est-ce que je peux demander à quelqu'un de lire à haute voix 1 Corinthiens 6, verset 14.
Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance.
Voilà. Donc le premier impact de la résurrection de Jésus, c'est qu'il nous ressuscitera au dernier jour. Mais il n'y a pas que ça. Et est-ce que quelqu'un d'autre, ou le même, que vous voulez, veut bien lire dans Colossiens au chapitre 2 et le verset 12? Colossiens 2, verset 12.
Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts.
Voilà. Là maintenant, il n'est pas question de notre résurrection finale, mais de la résurrection de vie ici et maintenant. Donc, Jésus est ressuscité. Nous ressuscitons avec lui par la foi en lui pour expérimenter cette vie ici et maintenant. Et nous ressusciterons corporellement à son retour. Donc c'est l'accent que j'aimerais porter aujourd'hui dans ce qui a été dit dans Colossiens 2, en quoi la résurrection de Jésus nous impacte. Parce que lorsqu'il est ressuscité, il est resté 40 jours avec ses disciples, puis il leur a dit « Restez à Jérusalem ». Et l'Esprit surviendra sur vous 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte. Mais quand on lit cette dimension-là, dans le livre des Actes, les disciples attendent l'Esprit, et puis l'Esprit vient. Mais comment les disciples ont été préparés pour recevoir cet Esprit de vie, cet Esprit de résurrection? Pour ça, il faut remonter dans les Évangiles. Et donc, c'est ce que je vais faire. Comment est-ce que Jésus les a préparés pour recevoir cet esprit de résurrection, cet esprit de la Pentecôte. Ça va être le thème de ce matin. Comme ça, ça nous implique pour une application pour nous. Alors, je vais commencer par rappeler que Jésus, en sa personne, a accompli les sept fêtes de l'Éternel, les sept fêtes d'Israël. Alors, est-ce que déjà, là, ça va être un challenge peut-être, est-ce que vous pouvez me rappeler quelles étaient les sept fêtes de l'Éternel ? Et après, j'en ai la liste sous les yeux, évidemment. Mais... Alors, la première, comment le cycle annuel des fêtes commençait ? Quelle est la première des fêtes ? Au printemps, en avril, je vous aide. C'est la fête de Pâques. C'est la fête de Pâques, qui est la première des fêtes. Donc, le calendrier commençait le jour de l'équinoxe du printemps. 14 jours après, l'agneau est sacrifié. C'est le jour de la Pâque. Donc, c'est la première des fêtes. Ensuite, il y a deux fêtes qui sont associées à la Pâque. Donc, voilà, donc c'est le, ça s'appelle les prémices. Et il y a une autre fête.
Les pains sans levain.
Les pains sans levain, voilà. Donc, les trois premières fêtes. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 5 que Jésus est notre Pâque. Il nous dit également dans ce même verset, versets 5, 7 à 8, il est notre pain sans levain, celui que nous mangeons. Et dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23, quand il est question de la résurrection, il est dit, il est les prémices de la résurrection. Jésus a accompli les trois premières fêtes de l'Éternel. Quelle est la quatrième ? Je l'ai mentionné tout à l'heure.
La Pentecôte.
La Pentecôte. Et dans Actes 2, il est dit au verset 33, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Il a reçu l'Esprit qui avait été promis. Il accomplit la Pentecôte. Nous ne recevons pas l'Esprit. Jésus l'a reçu. Nous entrons en communion avec Jésus. Et recevons l'Esprit au travers de lui. Ce n'est pas quelque chose qui nous arrive indépendamment de Jésus. Pourquoi je dis ça ? Si nous voulons connaître l'Esprit de Dieu, cherchons Jésus. Paradoxalement, et non pas l'Esprit. On ne peut pas recevoir l'Esprit en dehors de Jésus. C'est avec Jésus, en communion avec lui, que nous sommes rendus participants de l'Esprit que lui a reçu du Père. Et ensuite, il y a les trois fêtes d'automne qui commencent en septembre-octobre. Alors ? Non, pas la moisson. La fête des trompettes qui signale le Rosh Hashanah en hébreu qui veut dire la tête de l'année, c'est-à-dire le début de l'année civile. Les trompettes. Comment est-ce que Jésus a accompli la fête des trompettes ?
Je pense que sa femme l'aura accompli.
Comment ?
Je ne sais pas si c'est déjà accompli, parce qu'il y a des fêtes qui ne sont pas encore accomplies.
Alors, en fait, la fête des trompettes, nous sommes en plein dans l'accomplissement des fêtes de trompettes. Pour le voir, regardez simplement le livre de l'Apocalypse, avec les trompettes qui vont du chapitre 8 au chapitre 11. Et dans l'étude que l'on a commencé et qu'on continuera, on verra que nous sommes dans ce temps où les trompettes sont en train de résonner. Et donc l'accomplissement du livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire la souveraineté de Jésus sur l'histoire du monde, avec des trompettes qui nous rappellent évidemment celles qui ont sonné autour de Jéricho et ont précipité la chute de la ville, comme les trompettes de l'Éternel vont précipiter la chute du monde. Donc on peut dire qu'on est en plein dedans. Ensuite, il manque encore deux fêtes. La grande fête, le grand jour des festivités, c'est le grand pardon, le Yom Kippour. Très bien. Et alors, est-ce que en quoi Jésus a accompli cette fête-là ? Est-ce qu'il l'a accompli ? Est-ce que c'est fait ? Voilà, maintenant personne n'ose rien dire. Que nous dit l'Épître aux Hébreux ? Ça a été mentionné tout à l'heure, il est entré dans le lieu très saint. Donc en fait, Jésus a accompli par sa résurrection et l'entrée dans le lieu très saint, lorsque le voile a été déchiré, le Yom Kippour a été accompli. Et non seulement cela, mais quand on regarde et qu'on enchaîne dans le livre de l'Apocalypse les scènes célestes, on se rend compte en fait que ces passages décrivant des scènes dans le ciel sont en train de nous décrire le jour du Yom Kippour. Donc Jésus, en ce moment même, continue à célébrer le jour du Yom Kippour. Donc déjà six fêtes que Jésus accomplit. Et quelle est la dernière fête de l'Éternel?
Le tabernacle.
La fête des tabernacles. Et celle-là, alors pour le comprendre, c'est celle en fait que nous allons accomplir pour l'éternité. Puisqu'il est dit dans le livre de l'Apocalypse, il va tabernacler avec nous. Dieu sera au milieu de nous. C'est la fête que nous célébrerons pour l'éternité. Et c'est comme ça que l'on peut en particulier comprendre les derniers chapitres de Zacharie, qui sont précisément dédiés à la fête des tabernacles. Donc Jésus accomplit les unes après les autres les fêtes de l'Éternel, et j'aimerais me concentrer sur la fête des tabernacles. Pour commencer, donc le message va être en deux parties, correspondant à deux passages de l'Écriture, qui nous montrent comment Jésus nous prépare pour la vie de résurrection. Et donc le premier passage est très connu, on va le lire dans Jean 7, le grand jour de la fête, qui était la fête des tabernacles. Mais avant cela, j'aimerais lire deux passages. Puisqu'à l'occasion de la fête des tabernacles, dans le rituel religieux des Juifs de l'époque, il y avait un certain nombre de passages que l'on lisait à l'occasion de la fête des tabernacles. Et c'est important de comprendre quels sont ces passages, parce qu'on va comprendre du coup pourquoi Jésus dit ce qu'il dit. Voilà les passages qui étaient lus à l'occasion de la fête des tabernacles il y a 2000 ans. Dans Ésaïe 12, au verset 3, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Et dans Zacharie 14, c'est là où j'arrive à Zacharie, au verset 16 et 17, « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. » Et vous commencez à voir que le thème commun aux deux premiers passages que je viens de lire, c'est le thème de l'eau vive, l'eau de la pluie, l'eau de la source. Et à l'occasion de la fête de la tabernacle, on fêtait donc l'eau, et en particulier cet événement particulier relaté dans Exode 17 et Nombre 20, quand l'eau a jailli du rocher dans le désert. Ça aussi, c'était les passages qui étaient lus pour rappeler ce qu'est la fête du tabernacle. Donc vous voyez que c'est le thème de l'eau vive. Et c'est ce que nous dit Paul dans 1 Corinthiens 10, les versets 1 à 4, je lis juste le 1 et le 4. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Messie. » Et c'est dans ce contexte-là, quand on lisait ces passages dans la synagogue, que le dernier jour, le grand jour de la fête des tabernacles, Jésus, se tenant debout, s'écria. C'est dans Jean 7, versets 37 à 39. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive celui qui croit en moi. » Je l'ai découpé un peu différemment de ce qui est fait d'habitude. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive celui qui croit en moi. » Parenthèse, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, du sein du Messie, comme dit l'Écriture. On aura un peu de peine à trouver en quoi l'eau vive coule du sein du croyant dans l'Ancien Testament, alors qu'il y a pléthore de passages qui nous parlent de l'eau vive et de la source, qui est une figuration du sein du Messie. Les fleuves d'eau vive couleront du sein du Messie, donc je rajoute, comme dit l'Écriture. Il dit de cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et on peut rajouter d'autres passages, Ésaïe 55 par exemple, hein, très connu. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. » Sous-entendu, Dieu est la source. Dans Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ce qui montre bien que c'est Jésus qui est la source d'eau vive. Ou alors dans Apocalypse 21, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. » Et on peut ajouter comme ça beaucoup de passages dans l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament, montrant que Jésus est la source. Alors, si j'en reste là, ben voilà, on va à Jésus et on reçoit l'eau vive, on communie avec lui pour participer de cette eau vive. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et cela, on le voit, par exemple, lors de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Dans Jean 4, 13 et 14. Jésus dit à la Samaritaine, « Donc quiconque boit de l'eau du puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, donc Jésus est bien la source de cette eau-là, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, en elle, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et là, ce que je vois dans le passage que je viens de vous lire, c'est un processus. Jésus nous donne de l'eau, cette eau devient en nous une source d'eau, et cette source d'eau va jaillir jusque dans la vie éternelle. Combien on aimerait que tout soit fait avec un claquement de doigts. Et c'est souvent la manière dont, par la théologie, l'évangile est présenté. « Oh, tu crois, paf, ça y est, t'es baptisé, t'es rempli de l'esprit, tout est fait. » Quand je vois l'Écriture, je vois un processus. Jésus donne de l'eau, et si je reçois cette eau, je commence à me nourrir de cette eau devient une source d'eau en nous qui va en faire profiter d'autres et qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. C'est un processus, c'est une croissance, ce n'est pas on-off. L'eau reçue de Jésus est bue par le croyant et cette eau devient une source d'eau. Si l'eau devient une source d'eau en nous, ce n'est pas parce que nous sommes devenus une source d'eau. C'est parce que Jésus devient vivant en nous et que sa source d'eau se manifeste au travers de nous. Ce n'est pas... ça ne tourne pas autour de nous, ça tourne autour de Jésus. Et donc j'ai marqué qu'on a recevé la puissance de l'esprit de vie de résurrection. On ne peut la recevoir en dehors de la communion à Jésus. Et comme j'aime à le dire encore, encore et encore, nous n'avons qu'une seule chose à faire. C'est Jésus qui a reçu l'eau vive, c'est Jésus qui a reçu l'Esprit, c'est Jésus qui a reçu les dons. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, chercher la communion avec lui, prendre du temps avec lui ouvrir notre cœur. Vraiment, développer cette relation-là, c'est la seule chose dont nous soyons capables. Tout le reste, c'est lui qui doit le faire. Il doit nous donner de l'eau, non seulement pour étancher notre soif, mais également pour nous laver et nous frotter. Il y a bien des choses à frotter en nous, qui sommes en contact avec ce monde. Et donc, c'est la première idée que j'aimerais imprimer aujourd'hui. Une des images qu'emploie la parole pour parler de cet esprit de vie, de résurrection, c'est cette question de l'eau vive. Alors imaginons que nous soyons dans le désert, assoiffés, sous un soleil brûlant. La seule chose que l'on désire, c'est avoir de l'eau vive. Avons-nous cette soif de Jésus? Avons-nous cette soif de son eau? Être rempli de l'esprit, c'est comme avoir bu un grand verre d'eau fraîche quand on a très très soif. Ça nous remplit, ça nous fait du bien, mais également ça nous remplit et la présence du Seigneur, comme je l'ai dit, devient une source d'eau. Alors l'eau, ça représente différentes choses de la parole, mais entre autres, la parole de Dieu. la parole de Dieu qui est comme une eau. Une eau qui nous parle, une eau qui nous nourrit. Et j'en arrive du coup au deuxième passage auquel je pensais pour parler de cette vie de résurrection. Et là, on va voir que ce deuxième passage est encore caractérisé par un processus. Hein, il faut sortir de la mentalité Coca-Cola, je mets une pièce et j'obtiens ma bouteille de Coca-Cola. C'est un processus. Et ça, c'est un passage que j'aime beaucoup considérer. Il n'y a pas longtemps, j'ouvre une parenthèse, j'ai reçu un coup de fil d'un frère à qui j'ai essayé d'expliquer quelle était la différence entre se construire autour de doctrines théologiques et garder une parole vivante. C'est-à-dire ne pas remplacer une parole vivante par des points de doctrine. Il faut appel à la connaissance, mais ce n'est pas la parole. Et pour lui illustrer cette différence, j'ai pris le passage que je vais vous lire maintenant. Le passage est très intéressant, on le trouve dans Jean 14. Et pourquoi il est intéressant? Parce que le passage que l'on trouve dans Jean 14 va faire exactement le lien entre ce que les disciples ont vécu à la Pentecôte et ce que nous, qui sommes vivants bien après la Pentecôte, comment cette Pentecôte va se traduire dans nos vies. Et c'est ça pour moi qui est particulièrement frappant. Donc voilà ce qu'il dit d'abord à ses disciples en vue de la Pentecôte qui devait venir quelques semaines après, dans Jean 14, versets 15 à 18. Et on va essayer à nouveau d'y voir un processus. Si vous, et là il parle aux 11, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Notez le futur. Je prierai le Père et il vous donnera, futur, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité. Et je vous rappelle qu'en araméen, vérité, shrara, ça veut dire ce qui affermit notre cœur. Un esprit que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Donc là, on comprend bien la séquence. Gardez ma parole et à la résurrection, l'ascension, je prierai le Père. Et on l'a vu dans Acte 2, Jésus a reçu du Père l'Esprit promis et il l'a répandu à la Pentecôte. Donc là, c'est assez transparent. Et on voit la séquence entre le moment où Jésus leur parle, la mort, la résurrection, l'ascension, Jésus reçoit l'Esprit et la Pentecôte. Mais ça, ça concerne les disciples. Comment ça nous concerne? Eh bien, de manière fort étonnante, il va y avoir deux autres passages qui suivent où cette fois, Jésus va nous parler. Et il explique en fait comment ce qu'ont vécu historiquement les disciples avec la séquence que je viens de vous décrire va nous concerner, nous tous ici présents. D'abord, toujours dans Jean 14, mais cette fois au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime, notez le futur, sera aimé de mon Père. Futur, je l'aimerai et futur, je me montrerai à lui. Je dis, mais attends, si j'ai les commandements de Jésus et je les garde, c'est que j'aime Jésus, c'est qu'il s'est déjà montré. Et en voyant Jésus, j'ai déjà vu le Père. Comment se fait-il qu'il dit que je serai aimé du Père, il m'aimera et Jésus se montrera? Mais attends, c'est déjà fait puisque j'ai la parole et je la garde. Vous voyez ce que je veux dire? Là encore, on n'est pas dans de l'instantané. Il y a un processus qui commence par le fait de garder la parole. De ne pas les réduire à des petits schémas théologiques dans nos têtes qui réduisent la parole. Non. Là, je vois un processus. Garder la parole, c'est aimer Jésus. Aimer Jésus, c'est garder la parole. c'est après 30 ans de lecture de la Bible, être encore surpris par ce que la parole nous dit, par ce que la parole, comment la parole nous parle, tel verset, tel passage, telle histoire qui résonne, et non pas se mettre à lire la Bible de manière sèche à partir d'une théologie qui est déjà en place et qu'en fait on ne peut pas s'empêcher de faire passer au travers, par exemple, de nos partages ou de nos messages. On entend assez rapidement quand quelqu'un partage de la parole, si c'est la parole qui partage ou si en fait il essaie de nous vendre une théologie. J'ai l'oreille assez sensible pour ce genre de choses. Donc faisons attention de garder la parole, de garder cette... j'aime bien parler de la parole, je vous l'ai déjà dit, comme un talkie-walkie avec Dieu. C'est le moyen par lequel Dieu nous parle. Et donc notons les futurs. Garder la parole, c'est aimer Jésus. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me montrerai à lui. Alors maintenant, je mets ça en parallèle avec la première séquence adressée aux disciples. Aux disciples, il avait dit, gardez mes commandements, je prierai le Père, le Consolateur viendra. Notez l'ordre. Gardez mes commandements, le Fils, je prierai le Père, le Consolateur viendra, l'Esprit. Le Fils, le Père, l'Esprit. Vous voyez ? Les trois personnes de la Trinité. Mais dans l'ordre, le Fils, par le fait de garder la parole, le Père, et ensuite l'Esprit. Et bien dans Jean 14, 21, que je viens de lire, regardons la séquence. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, le Fils. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, le Père. Et comment donc va se traduire la dimension de l'Esprit ? Je l'aimerai et je me montrerai à lui. Donc là, on n'est plus question de la Pentecôte où l'Esprit vient à la Pentecôte, mais la manière dont l'Esprit vient à nous, c'est en nous démontrant le Fils. Vous voyez ? Le Fils, le Père, l'Esprit, pour nous, par la démonstration de qui est Jésus. Cet Esprit qui prend de ce qui est à Jésus et nous le donne. Et on a la même idée, quelques versets plus loin, toujours dans Jean 14, les versets 23 et 24. Si quelqu'un m'aime, moi, toi, vous, nous, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, aimez Jésus, gardez la parole, mon Père l'aimera, le Fils, le Père, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, je remets le parallèle avec la Pentecôte. D'abord, le Fils gardait la parole, le Père aimera. Et là, cette fois, la manière dont va se traduire la Pentecôte pour nous, c'est que Père et Fils, l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils, viennent en nous. Pour ma part, ces versets résonnent énormément. Parce que j'y vois un chemin de guérison. J'y vois un chemin de guérison. Premièrement, dans la découverte de l'amour, de l'amitié, de l'intimité avec le Fils. Mais deuxièmement, il faut passer également par la guérison à l'égard du Père. Il faut découvrir que le Père n'est pas un Dieu fouettard ou un Père sévère, mais qu'il est un Père bienveillant, comme il est dit ici deux fois, qui nous aime. Et c'est dans la découverte du Père au travers du Fils qui prend les devants et vient à nous que la dimension de l'Esprit peut alors se manifester. Et donc j'y vois pour ma part également un chemin de guérison. Le Fils vient en nous en amitié. Il nous révèle ensuite la bienveillance du Père, alors qu'on peut avoir toutes sortes de conceptions de Dieu et en particulier du Père céleste. Souvent, dans les églises légalistes, c'est la conception d'un Dieu dur, d'un Dieu sévère, qui nous juge par la loi. Donc on a besoin de découvrir non seulement qui est Jésus, mais de découvrir qui est le Père, la bienveillance du Père, la souveraineté du Père. Et en découvrant et le Fils et le Père, en fait, l'Esprit se manifeste. Donc j'y vois, comme je l'ai dit, un chemin, là encore, un processus. Alors non pas, comme on le voit dans certains livres, les sept clés pour être rempli de l'Esprit. Hein? On ne parle pas du tout de ça ici. On parle en fait de la découverte de toutes les dimensions de la divinité, le Fils, le Père et l'Esprit. D'où la seule, comme je l'ai marqué ici, la seule clé de la vie chrétienne, et c'est en ce sens que j'aime beaucoup Calvin, c'est l'union avec Jésus. C'est la seule chose qu'on a à faire. Et dans la recherche de Jésus, il nous amène au Père, il nous fait découvrir qui est le Père, qu'on peut avoir confiance en un Père qui est bienveillant à notre égard. Et là, je rejoins donc le message de vendredi soir. C'est là également qu'on intègre que la bienveillance du Père ne nous épargne pas la souffrance de la chair, puisque faire la volonté de Dieu, c'est la chair qui souffre, mais c'est l'esprit qui se repose en union avec Jésus et dans la soumission au Père. Et c'est en ce sens que je dis qu'il est important de découvrir la bienveillance du Père, et je le répète parce que c'était le cœur de ce que j'ai dit vendredi, la bienveillance du Père ne nous épargne pas la souffrance de la chair. Et c'est une souffrance qui amène à la crucifixion de la chair et à la manifestation justement de l'Esprit de Dieu. Donc voyez ici que lorsqu'on va du Fils à la découverte de la bienveillance du Père, ça sous-entend qu'il y a quelque chose là qui est en train d'être crucifié pour pouvoir aller du Fils vers le Père. C'est la crucifixion de la chair et l'acceptation que notre chair doit souffrir. Elle doit renoncer à sa convoitise en découvrant un désir supérieur qui est celui de Jésus, qui est celui du Père. Donc c'est tout ça que ça implique, ce chemin-là. Passer du Fils au Père et découvrir, accepter la volonté du Père et la souveraineté du Père dans notre vie, y compris s'il nous arrive des choses qui nous font souffrir notre chair, c'est passer du Fils vers le Père et permettre la manifestation de la vie de l'Esprit. Donc, bienveillance et souffrance. Pour moi, ça a été longtemps deux choses antagonistes et irréconciliables. Donc je l'ai dit vendredi, parce que c'est le point important. Il suffit d'entendre dans le monde, mais si Dieu était amour, pourquoi la guerre? Pourquoi la souffrance? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Naturellement, et dans notre chair, nous n'arrivons pas à concilier que Dieu puisse être amour et bienveillant d'un côté, et qu'il nous faille passer par des épreuves et des souffrances de l'autre. Donc, pour que l'Esprit se manifeste en nous, il faut accepter que la bienveillance du Père peut vouloir dire la souffrance de notre chair. Et si notre chair souffre, ce n'est pas parce que Dieu nous hait, c'est parce que Dieu veut nous faire avancer, veut nous manifester la vie de son Fils par l'Esprit en nous. Mais cette manifestation de la vie de l'Esprit en nous passe par le renoncement à la chair, passe par la crucifixion de la chair. Et comme je l'ai déjà dit, je crois souvent, il n'y a pas de vie sans mort. Il n'y a pas d'expérience de la vie de l'Esprit sans mort et crucifixion de la chair. Mais on ne crucifie pas la chair par nos efforts en se faisant des harakiri dans tous les sens. Ça, c'est le légalisme. C'est le meilleur moyen d'avoir la chair qui nous explose à la figure. La crucifixion de la chair ne peut avoir lieu que si nous désirons quelque chose de bien supérieur. Et c'est pour ça que le chemin qui est marqué ici, aimer Jésus, être aimé du Père, et du coup connaître le Père et le Fils, avoir le Fils qui se montre, et connaître ce Père et ce Fils qui, par l'Esprit, vient habiter en nous. Donc à nouveau, on ne lutte pas contre la chair directement, mais on désire quelque chose de bien meilleur, qui est Jésus lui-même. Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il n'est pas dit « crucifiez la chair », et alors vous pourrez marcher par l'Esprit. Et marcher par l'Esprit, ben le chemin, je viens de le montrer, c'est la seule chose dont nous soyons capables, qui est la quête de l'union avec Jésus. Donc la vie de résurrection, l'Esprit de vie, la source d'eau vive, sont intimement liés, en fait, à un chemin qui passe au travers de chacune des personnes de la Trinité. Et ce chemin nous est montré ici, le Fils, le Père, l'Esprit. Tout passe par le Fils, parce qu'il a tout, il a tout fait, il a tout accompli, il a tout reçu. C'est le problème souvent dans certains milieux que l'on cherche pour soi-même, indépendamment du Fils. On cherche à recevoir pour nous-mêmes. alors qu'en fait, c'est le Fils qui a tout accompli. Et si Jésus a tout, c'est que je n'ai rien. S'il a tout fait, c'est que je ne peux rien faire. S'il a tout reçu, c'est que je ne peux que recevoir. Et c'est vraiment l'esprit de prière qui doit nous animer quand nous recherchons le Seigneur. Et je peux rendre pour moi-même témoignage de l'expérience dans la prière de ce chemin qui amène d'abord par la découverte d'un Jésus dont la face était favorable. Et ensuite, il y a eu un long processus pour arriver à soumettre au Père, se soumettre au Père. Voilà, en particulier quand on a une image très tordue, distordue du Père pour tout un tas de raisons. Donc la découverte de qui est le Père et l'acceptation que la soumission au Père me coûtera quelque chose. Donc il faut l'acter. Acter que notre chair souffrira. Et la dimension de l'esprit se traduit en particulier, on le voit dans deux chapitres plus loin, dans Jean 16, par le fait que, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est l'esprit qui révèle la parole. C'est l'esprit qui nous donne l'intelligence pour comprendre l'écriture. C'est l'esprit qui éclaire. C'est l'esprit qui garde cette parole vivante. Et en faisant comme ça, on boucle la boucle. Je garde la parole parce que Jésus m'aime. Je découvre le Père Céleste, sa bienveillance, mais également le prix de la souffrance. Du coup, l'esprit du Père et du Fils viennent habiter en moi, viennent habiter en nous. Et cet esprit va démontrer Jésus, illuminer la parole, qui va nous faire apprendre. Voilà. Et là, on entre dans un cycle. Je ne sais pas si ça vous parle, quand je vous parle de ce chemin qui parle du Fils par le Père et l'Esprit qui révèle à nouveau des choses concernant le Fils, qui révèle des choses concernant le Père, et on approfondit ainsi la connaissance de Dieu, de qui est le Fils, qui est le Père, quelle est la relation entre les deux, comment je me situe avec l'un, avec l'autre, tout ça dans l'Esprit de Dieu. Et vous avez remarqué évidemment que quand il est question de la manière dont l'esprit de Pentecôte se manifeste en nous, l'esprit est complètement effacé. J'ai dit, gardez la parole, aimez Jésus, le Père nous aimera, mais c'est Jésus qui est démontré par l'esprit, ou le Père et le Fils qui viennent demeurer en nous, c'est-à-dire l'esprit du Père et l'esprit du Fils. On ne cherche pas l'esprit en tant que tel. On cherche le Père, on cherche le Fils, et l'esprit nous donne selon notre demande. Et donc, pour conclure, pour ne pas faire trop long, quand on pense aux résurrections, on pense évidemment à celle de Jésus. C'est ce que j'ai dit au départ. Trois jours, le troisième jour après la Pâque. Et on pense à la résurrection finale, 1 Corinthiens 15, la résurrection des morts qui est devant nous. Mais comme je l'ai dit dès le départ, il y a également une autre résurrection que le livre de l'Apocalypse, par exemple, appelle la première résurrection, qui est celle dont parle Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 11, à l'occasion de la résurrection de Lazare. Celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. On trouve ça dans Jean 5 également, qui est le passage que je vais lire maintenant. Jean 5, versets 24 à 28. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, tiens, il y a à nouveau question du Fils, la parole du Fils, et qui croit à celui qui m'a envoyé, tiens, il y a à nouveau question du Père, le Fils, le Père, toujours le même ordre, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. L'esprit de vie, la puissance de l'esprit qui fait passer de la mort à la vie. Et là encore, on a le même chemin, le Fils, le Père, l'Esprit. Ensuite, Jésus continue. Donc là, on est en train de passer, on est bien en train de parler de ce processus de résurrection en nous, ici et maintenant. Et Jésus continue en disant au verset 25, « en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Et ceux qui étaient là hier soir feront le lien avec ce moment où Jésus est descendu dans le Shéol à proclamer l'évangile, et ceux qui ont entendu et qui attendaient la venue du Messie dans le Shéol ont entendu la voix du Fils de Dieu et sont ressortis du Shéol avec Jésus. Donc, on a déjà deux illustrations de la résurrection rien que dans ce passage de Jean 5. La résurrection ici et maintenant, celui qui croit en moi passe de la mort à la vie. Deuxièmement, les morts entendront la voix du Fils de Dieu. C'est arrivé historiquement quand Jésus est descendu dans le Shéol. Et juste après, il dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et là, il est question de la résurrection finale. Donc, en quelques versets, Jésus noue trois aspects de la résurrection. La résurrection, sa propre résurrection qui a entraîné avec lui les captifs, notre résurrection par la foi en lui, et la résurrection finale lors de sa venue. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, nous vivons à l'heure de l'instantané et du rationalisme. La parole nous parle de croissance, d'approfondissement, de processus, de persévérance, de course, de marche. Hein, qu'on marche lentement ou qu'on court vite, l'important c'est d'avancer. Et je conclurai avec ce passage très connu dans Éphésiens 3, qui je pense résume bien le lien qu'il y a entre l'intimité avec Jésus et l'expérience de la vie de l'Esprit, qu'on trouve dans Éphésiens 3, au verset 16 à 21. Que le Père vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, l'amour du Fils, l'amour du Père, vous puissiez connaître l'amour de Christ. Intéressant. En connaissant l'amour, le but c'est de connaître l'amour. Hein, on voit encore que c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui se passe comme ça. Étant enraciné et fondé dans l'amour, sous-entendu de Jésus, vous puissiez connaître l'amour de Jésus, du Messie, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On parle souvent de la puissance de l'Esprit de Dieu. La puissance de Dieu. On a prononcé ce mot plusieurs fois ce matin. Or, le mot grec que l'on traduit par le mot puissance, est-ce que quelqu'un le connaît? Quel est le mot grec qui est employé pour parler, qui est traduit dans nos Bibles par le mot puissance? Voilà, dynamis. La dynamique. Donc à chaque fois, pour ma part en tout cas, quand je lis mon Nouveau Testament et que je vois le mot puissance de l'Esprit, puissance de Dieu, je le remplace à chaque fois dans ma tête et essayez de faire l'expérience. Je le remplace par la dynamique de Dieu. Je n'ai pas dit la dynamite. Même si la puissance de Dieu est capable de faire éclater les rochers. Mais la dynamique de l'Esprit. La dynamique de Dieu. Parce que dès que j'entends le mot dynamique, en plus je suis physicien de formation, immédiatement je vois le mouvement, les processus, quelque chose qui avance. C'est dynamique, ce n'est pas statique. C'est dynamique. Vous voyez? Et donc chaque fois que je lis le Nouveau Testament et je vois le mot puissance, je mets à la place le mot dynamite. Dynamique, pardon. La dynamique de l'Esprit, la dynamique de Dieu. La dynamique, voilà, la dynamique. C'est ce que j'ai essayé de montrer ce matin. On s'attend à un événement soudain qui nous remplisse de l'Esprit, là où la parole nous parle d'une dynamique de vie de l'Esprit et dynamique de vie que l'on reçoit par la communion avec Jésus. Il nous donne d'abord de l'eau de la parole. J'allais presque dire, il voit qu'est-ce qu'on fait de cette eau-là. Est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on de suite on la remplace par autre chose? Nos forteresses de raisonnement, nos expériences. Qu'est-ce que l'on fait de l'eau qu'il nous donne? Et si on la garde, on se dit, waouh, ça désaltère, ça me fait du bien, ça me parle. Le Seigneur en donne plus, et encore plus, et encore plus. Et dans ce processus, on découvre le Père, Et ensuite, on a la plénitude de Dieu, puisqu'on a le Père et le Fils par l'Esprit, qui est Esprit du Père et Esprit du Fils. Donc j'espère vous avoir juste. Retenez une seule chose de ce que je vous ai dit, c'est le mot dynamique. La découverte de l'Esprit de Dieu, elle est beaucoup plus simple que ce qui est promu dans bien des milieux, c'est la découverte de la dynamique de l'Esprit, de cette marche. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est une marche qui se réalise dans la conjugaison à Jésus et dans l'union avec Jésus. J'ai déjà parlé plusieurs fois d'elle ce matin, de l'union avec Jésus. C'est la seule chose qui doit nous motiver, nous mettre en mouvement. Voilà, je ne ferai pas plus long. Mais voilà ce que je voulais dire par rapport à cet esprit de résurrection et la manière dont cet esprit de résurrection manifesté à la Pentecôte s'applique dans nos propres vies.